Nicolas Paliche. Donc, la Fondation Louis Moret à Martigny présente les œuvres d'une artiste grecque résidente en France, Eva T. Bonny. Son travail est basé sur un matériau, vous l'avez dit, plutôt surprenant, parce que c'est le caoutchouc.
Absolument.
Du coup, Nicolas Paliche, vous avez mis la gomme.
Je me suis permis de...
Oui, vous permettez beaucoup de choses hein, pour vous rendre à Martigny. Et vous en êtes revenu très intéressé.
Oui, oui, parce que effectivement, le travail d'Eva T. Bonny est à la fois tout en subtilité, en nuance, et malgré ce matériau qui peut paraître surprenant pour une artiste contemporaine qui est plutôt rébarbatif, donc ce caoutchouc, alors ce qu'elle arrive à tirer de ces fameuses plaques qu'elle façonne elle-même avec patience, douceur, application et en même temps quand même un assez grand talent, c'est assez surprenant parce que c'est à la fois plein de sensualité, c'est-à-dire que les surfaces appellent la main. Le caoutchouc, on a plutôt l'impression d'avoir du pneu, et là c'est tout doux, tout laiteux, c'est très beau.
Moi, j'ai un peu de peine à imaginer ce qui peut sortir d'artistique d'un matériau comme le caoutchouc. Qu'est-ce que ça donne comme forme?
Alors en fait, c'est des formes très simples. Hein. Imaginez qu'elle a fait une poya dans du caoutchouc, mais en l'occurrence c'est une géométrie assez organique, c'est-à-dire que les rectangles ou les carrés sont toujours formés de droite un peu courbe, les angles sont jamais vifs et les surfaces ne sont jamais tout à fait lisses parce qu'elle les ponce. Je ne sais pas comment elle a une cuisine pour travailler cette matière,
sans doute, ouais.
qui rend un matériau presque proche du cuir en fait comme sensation.
Mais vous parlez du rectangle, du carré, mais est-ce que c'est cette étape-là, ce sont des volumes?
Oui, alors c'est vraiment une question qu'on peut se poser parce que elle joue beaucoup entre les deux. On va dire plutôt que ce sont des reliefs, hein, c'est de cet ordre-là. Donc ces plaques de caoutchouc qu'elle achète, en rue. Enfin, rouleaux, sont différentes épaisseurs et donnent aux formes une espèce de géométrie assez souple. Imaginez que vous posez une plaque contre un mur, elle va légèrement s'affaisser, donnant une espèce de galbe, on va dire de chute de rein parfois. C'est pour ça que je parlais de sensualité. Mm-hmm. Et du coup, elle laisse vivre le matériau lorsqu'il se met sur le mur. Donc, au moment où elle arrive dans l'espace qu'elle va investir de ses œuvres, ben, c'est pas trop ce qui va arriver parce qu'elle a, j'imagine, dans son coffre tout un tas de ces éléments plastiques qu'elle va pouvoir créer. Comme ça, elle procède par installation, c'est-à-dire que ses œuvres s'intègrent dans l'espace en fonction de l'espace et elles sont en fait modulables. C'est ce que j'ai compris après avoir discuté un bon moment avec elle samedi. Et elle joue avec les pleins, les vides, en traçant des lignes entre ces formes. Donc on imagine des formes plutôt opaques, lourdes, qui donnent pas une sensation de légèreté du tout au départ. Mmh. Elle les rejoint par des lignes sur des petits fils de coton qui sont décollés du mur par des aiguilles. Donc elle passe le fil dans le chat de l'aiguille, ce qui fait que ça fait une petite ombre. Et du coup, de ces plaques naissent un réseau, mais très très fin, très subtil de lignes qui oscillent entre cette idée de lourdeur et de légèreté. C'est vraiment beau.
Oui, mais après tout, on est en train de critiquer un peu le caoutchouc comme ça, parce qu'on le confond avec le plastique, mais caoutchouc est une matière naturelle, et finalement tout à fait noble.
Oui.
Là, vous parlez de coton aussi, donc il y a aussi une démarche, oui. Ou de cuir.
Absolument, oui, parce qu'elle m'a expliqué qu'en fait, elle cherchait un matériau, puis dans un garage, elle a vu un rouleau de ce truc, elle l'a acheté, et puis ça a été, je sais pas si c'est le coup de foudre, parce que c'est quand même une matière difficile à travailler, mais c'est devenu son matériau, et... C'est ce qui rend l'exposition assez attrayante parce que, en fait, elle est pleine de potentiels différents parce qu'on se met à rêver à partir de ces objets. Une fois qu'on a compris le processus, on se dit, mais dans le fond, ça pourrait être comme ça, ils ont rajouté ça de telle manière. Et il faut reconnaître aussi que Marie-Fabienne Aymon, qui est la directrice de la Fondation Louis Moret, met toujours sa patte, mais quand je dis sa patte de velours, dans la construction de l'espace de son lieu.
C'est très lié au lieu, donc.
Ouais, c'est vraiment ça qu'il faut sentir lorsqu'on y va. Parce qu'on peut, au premier abord, se dire, non, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est faux, parce qu'il faut toujours penser architecture, on va dire, et lieu comme ça. Et c'est pour ça que je trouvais que le luth tout à l'heure allait très bien, parce qu'on a cette sensation de légèreté et en même temps de construction. C'est pas fait à la va-vite, c'est pas de l'impro. Et en fait, c'est dans son travail, il y a également, quand on dit que c'est pas de l'impro, elle a aussi de la rigueur parce qu'elle utilise volontiers les chiffres, enfin les nombres premiers qu'elle privilégie. En tant que grec, on va imaginer que les mathématiques ont du sens pour elle. Et c'est vrai que ça lui sert aussi à, dans le fond, compter l'espace et le temps. Ça lui arrive de semer ces nombres premiers dans le terrain, comme si on devait, un peu à la manière de, c'est qui c'est l'épaule, quel est le valet qui mesure sa chambre dans un opéra de Mozart? Dites-moi
mais
ça.
Bien sûr.
Voilà.
Mais c'est alors absolument, c'est celui-là.
Voilà.
C'est Figaro.
Merci.
C'est Figaro qui mesure.
Heureusement que vous
donc
êtes
pour
là,
Suzanne.
Dites-moi. Mais oui.
Voilà. Mais bien sûr.
Et on a l'impression qu'elle mesure comme ça à la fois l'espace et le temps. Bien sûr qu'elle n'a rien de Figaro. Eva T. Bonny. Mais en l'occurrence, je trouvais que ce geste était assez beau et en même temps très subtil, très doux, très pas envahissant, pas destructeur. Et en fait, c'est vrai que ces nombres, pour elle, sont une manière de compter le monde et de compter le temps et de s'inscrire dans le temps, mais elles travaillent aussi avec des textes.
Mmh. Et puis le nombre premier a cette faculté de n'être divisible que par lui-même,
oui,
ou par un, ce qui veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière.
Eh ben non, voilà.
Donc on est obligé d'avancer.
On va jusqu'à l'infini, absolument.
Ouais. Vous parliez donc de textes,
oui,
également,
absolument.
C'est le même processus ?
Voilà, parce que en fait, elle travaille avec des textes, des livres, enfin qui sont au-delà des objets usuels, deviennent tout à coup des porteurs de signes. En fait, elle les rend assez inaccessibles. C'est un peu un jeu comme ça, un piège. Elle va coudre un livre autour d'une pierre, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Elle va utiliser le livre comme une espèce de support, de socle, un galet sur lequel il y a un petit filet, une petite ligne de texte qui circule. Souvent, c'est des extraits de ses lectures. Le texte en lui-même n'a pas une importance colossale du fait qu'on ne peut pas bien le lire non plus. Mais néanmoins, ou alors elle perfore ses plaques de caoutchouc et elle fait comme un caviardage. On voit apparaître que par-ci, par-là, des fragments de texte, ce qui fait qu'on peut faire que d'imaginer ou que de rêver ce qui se cache en dessous, ce que je trouve assez beau aussi, assez poétique. Donc, en l'occurrence, ces petites lignes de texte, elle les colle sur des pierres, elle les colle sur des matériaux assez improbables. Elle joue sur cette usure entre la pierre qui est censée être éternelle, mais on sait bien que c'est pas le cas, et la ligne, le mot qui va s'effacer.
Oui, donc vous devez être sensible à tout ça puisqu'on retrouve la ligne.
Mais oui, bien sûr, c'est ça, c'est un élément qui est assez récurrent dans son œuvre. Et puis c'est comme cette figure faite de caoutchouc. Alors ça, c'est aussi très impressionnant. En fait, il faut imaginer un élastique de caoutchouc qui doit faire 5 mm de diamètre avec lequel elle a dessiné une figure géométrique. Mais là, évidemment, d'une aiguille à l'autre, eh ben c'est bien droit. Mais dès qu'il faut faire un angle, l'épaisseur du fil ne peut pas se plier à angle droit, donc ça va faire un petit arrondi. Mmh. Et encore une fois, on retrouve cette manière à la fois de tracer une trajectoire totalement déterminée et de prendre des angles et des courbes de façon très douce. C'est ce que je trouve assez beau. Pour moi, c'est une espèce d'oxymore, cette œuvre. C'est à la fois noir et blanc, simple et complexe, et d'une aridité très suave. Et je trouve que ça me fait beaucoup penser à la Grèce. Le paysage est comme ça en Grèce. Il est aride et en même temps, on y est bien.
Et suave. Voilà. Aride et suave.
Absolument.
C'est donc à la Fondation Louis Moret à Martigny, c'est jusqu'au 25 mai. Eva T. Boni, troisième acte.
Oui, c'est le titre de son exposition. C'est la troisième. Voilà.
Vous savez ce que ça veut dire, caoutchouc ?
Eh bien non, vous allez me l'apprendre tout de suite.
Alors ça vient d'une langue amérindienne, je ne sais pas exactement laquelle, ça a été découvert là-bas, en Amérique du Sud. Caoutchouc,
oui.
Ça veut dire le bois qui pleure.
C'est beau. Ben voyons, on reste dans la poésie grâce à vous. C'est magnifique, quel talent.
Merci Nicolas Palich.